RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, un derby étouffant, un public aux anges et un suspense depuis 2 heures. Le match d'accession au top 14 a tenu toutes ses promesses samedi après-midi à Aguilera, au Biarritz, a donc renversé son voisin bayonnais à l'issue de la séance des tirs au but. Une séance perdue qui coûte très cher à l'aviron et ravi de bonheur le BO et son public. Oui, mais tout le monde n'a pas apprécié le spectacle. Et non, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par exemple, est très colère selon lui. Et on le comprend, la jauge des 5000 supporters a été largement dépassée. Il entend sanctionner le BO, sans doute un supporter de l'aviron. Le rugby ce week-end, c'était aussi les barrages d'accès au dernier carré du championnat. L'UBB et le Racing se sont imposés sans trembler et rejoignent Toulouse et La Rochelle en demi-finale. Toulouse, grand favori pour un doublé historique. Le stade qui, sous la houlette du président Lacroix et du coach Hugo Mola, a réappris à gagner. On entendra le patron du stade toulousain. Pour évoquer toute cette actualité, les poteaux sont donc fidèles au rendez-vous. Denis Charvet est dans la place. Salut mon Denis, comment ça
Salut
va?
Salut messieurs, super.
Est-ce que là, parce que ça fait quand même 50 ans que tu paries sur des matchs nuls, tu l'avais donné celui-là?
Bien sûr, oui, bien sûr.
À la mi-temps et à la fin du match.
Il m'aurait rapporté beaucoup plus cher, mais à la fin du match, je l'ai joué et j'ai tellement eu peur que j'ai fait un cash out, ce qu'on appelle partir en courant avant la fin. Et tu sais, c'est pas passé loin parce que quand même.
Ah bah oui, non, mais c'est souvent comme ça avec toi.
Mais je me suis régalé pour
pas
dire,
loin,
non,
mais ça passe jamais quoi.
Ça fait longtemps que je me suis pas régalé devant telle rencontre de rugby, même si elle n'a pas été magnifique, ouais. Avec des envolées, mais c'est au niveau de la dramaturgie, c'était
exactement.
Vraiment.
Exactement. On avait eu un débat dans les grandes gueules du sport. Est-ce que le sport a besoin de spectacle? Moi, je disais qu'il fallait du spectacle, et toi, tu disais que la dramaturgie, justement, ouais, le suspense se suffisait pour assister à des grands matchs. On en parlera dans un instant. Avec le reste des poteaux, Manu Massicard, patron du Middle, qui est également de la partie. Salut mon Manu, comment ça va?
Ouais, salut les amis. Remis de ces formidables émotions qu'on a vécues ce week-end.
Ben oui, incroyable. Pierre Ami, Wilfried Templier, les Rochelais de service sont là. Bah oui, hein, La Rochelle en demi-finale, c'est la semaine prochaine, les garçons. Hein ?
Oui.
Comment ça va ?
Serein.
Serein, toi, t'as deux équipes, de toute façon, t'es tranquille, Wilfried, hein, de chaque côté. Hein,
la finale, recommence
ça,
pas.
La finale,
tu reviens juste, tu recommences, quoi.
La finale, hein, ça pourrait recommencer à être un peu tendu pour toi, mais on a le temps d'en parler. Oui. Et puis, nous accueillons un garçon qui a vécu un samedi agité. Paul Lafitte, partagé entre Bayonne et Biarritz, lui aussi, hein. C'est un peu comme Wilfried avec Toulouse et La Rochelle.
Dans le bas du tableau.
Ouais, mais enfin là, vous vous rendez compte que ce match entre Bayonne et Biarritz, match d'accès a complètement mis sous couvert les quarts de finale officieux du championnat de France. C'est vous dire, hein, même la une du Middle, ce lundi, Manu, vous avez consacré votre une à ce match, et non pas aux quarts de finale du top 14.
Parce que, comme on te l'avait dit vendredi, c'était le match de l'année, et évidemment, c'était un peu prémonitoire, parce qu'on sentait bien que cet enthousiasme et cet engouement autour de ce match allait dépasser un petit peu l'entendement. Et c'est effectivement ce qui se confirmait ce week-end avec un match de fou. Donc ça mérite une un peu particulière qui nous éloigne certes du top 14, mais qui nous plonge dans l'access match et dans la performance du BO.
Une ambiance de dingue donc pour un match au couteau et un combat qui a duré, je disais tout à l'heure, 2 heures, mais c'était près de 3 heures.
Je sais que c'est un match très très important pour les deux clubs et nous on est prêts pour rendre un gros match. Là on n'a pas de choix, on est là pour tout donner et on va le faire.
Il me semble que ça peut même être le derby du siècle.
Le coup d'envoi donné par les Biarrots et le premier ballon récupéré par les Bayonnais par Gaëtan Germain. La grosse pression d'entrée de jeu donc pour les joueurs du Biarritz Olympique. John Dyer qui bien à son tour franchit cette ligne dans but, mais finalement c'est un en avant de passer cette fois-ci le coup de sifflet final. On aura bien droit à des tirs au but ici à Aguilera. La tentative de tir au but qui est manquée par Emeric Luc face au poteau pour l'aviron bayonnais. 2-3 petits pas d'élan et Stephen Armitage qui envoie le Biarritz Olympique en top 14. C'est historique, Nico. Biarritz en top 14 et Bayonne relégué en Pro D2.
C'est un rêve, un objectif de la saison qui a été accompli. Je pense qu'on n'arrive pas trop à se rendre compte de la portée de cette victoire. C'est un match exceptionnel avec un enjeu terrible. On peut être que fier de ce qu'on a accompli ce soir.
Arrêtez.
Alors Paul, c'était le 113e derby de l'histoire du BO et de l'aviron. Bon, tu les as pas toutes commentées, c'est parti, mais quelques-unes quand même. Celui-ci a vraiment été particulier et il restera ancré, marqué dans l'histoire de ces derbys, sans doute le plus beau derby du championnat de France de rugby, hein.
Oui Christophe, le derby du siècle, hein, des mots prononcés par les joueurs biarrois à l'issue d'une guerre de tranchées qui aura duré au total 100 minutes sur cette pelouse d'Aguilera. et conclut donc par des tirs au but dans une ambiance irrespirable. C'était un combat de titans, on l'a compris, pour décrocher le précieux sésame d'une place en top 14. Alors, si le scénario n'était pas couru d'avance, hein, il se dessinait quand même rapidement dans ce match ultra fermé, peu d'envolées, beaucoup de fautes techniques, des buteurs pas vraiment en réussite pour un mano à mano sans envergure, les ingrédients de ce barrage qui restera, tu le disais, longtemps dans les annales ici au Pays Basque.
Denis, tu le disais tout à l'heure, tu t'es régalé malgré ce que disait Paul il y a quelques instants. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'envolées au niveau du jeu, c'était quand même assez pauvre, mais la tension, le retour du public, un public chauffé à blanc a fait que on s'est régalé, même on est Paul, resté scotché devant nos
Paul
écrans.
Paul aussi a été chauffé à blanc, hein. Pareil qu'il a fait une performance inouïe à la radio.
Donc ça c'est
prouve, ça prouve quand même que non mais on est resté scotché devant la
au
télé
au même niveau que Philippe Broussard, que je pensais qu'il allait avoir une crise cardiaque.
Mais, d'entrée, mais Philippe Broussard.
Non, mais d'entrée. Alors,
au bout de 10 secondes, il était.
Moi, ce qui est fou, c'est que je vais vous raconter, j'ai des Dimeco qui m'envoyait texto sans arrêt, alors que Dimeco, il est plutôt foot que rugby, donc il savait pas, à la fin, il était avec des copains à lui, il stressait, il disait, c'est le tir au but, c'est comment, c'est comme nous. Je lui dis, mais, et puis il y a plein de copains qui m'envoyaient des trucs, mais on n'a jamais vu ça. Donc il y a eu une espèce de résonance, des décos incroyables qui allaient au-delà du rugby. Et ça, c'est parce que, même le scénario a été incroyablement bien écrit à l'avance.
Pierrot, toi tu t'es régalé, les combats d'avant, les matchs au couteau comme ça, c'est ton truc. Hein.
C'est juste que moi j'ai pas vu un match affreux. Je sais que
moi non plus. Hein.
On en a parlé avec Wilfried et on n'est pas du tout d'accord.
Mais moi non plus. Je te rassure. Le chantre du jeu à la Toulousaine, évidemment, qui s'est emmerdé lui.
Non, mais c'est que
je suis pas embêté une seconde. Moi.
C'est que pour moi il y a trois critères qui font qu'un match est un grand match ou en tout cas un très bon match. Le premier c'est les intentions, c'est le fait de vouloir. Et ça, on y était à 100%. Les deux équipes avaient envie. Non mais les deux équipes avaient envie de faire un bon match. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté de détruire le jeu de l'autre, parce que déjà elles s'en chargeaient toutes seules, mais il y avait la volonté. Ensuite, il y a l'intensité. Et là, honnêtement, l'intensité, elle était largement au rendez-vous.
Ah oui.
On a vu beaucoup de courses, beaucoup de volume, on a beaucoup tenté. Et puis finalement, il n'y a pas une si grosse guerre d'avant, parce qu'il y a eu beaucoup de conneries, beaucoup de mêlées, mais il y a finalement eu assez peu de pick and go, il y a eu beaucoup, beaucoup de ballons écartés. Puis le troisième, c'est la qualité technique, et là, je suis d'accord avec Wilfried, elle n'était pas au rendez-vous. Mais on peut pas uniquement espérer du rugby avoir des matchs Hurricanes Islanders avec 90 points et des relances de l'en-but. Non,
bien sûr que non.
Pour moi, c'était on a vécu un grand match.
Mais là où je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Le contexte, c'est que il y a une telle rivalité, il y a une rivalité, il y a une telle histoire,
un tel enjeu en plus.
Non mais l'enjeu il est incroyable, l'enjeu, mais surtout l'histoire entre les deux clubs et la dramaturgie. Je crois que tout ça fait qu'à un moment donné, quand t'es dans ton poste et que tu connais un peu l'histoire de ces deux clubs. La preuve, c'est qu'il y en a qui ne le connaissaient pas forcément et qui ont été intéressés. Mais moi sincèrement, j'ai passé un après-midi incroyable.
Wilfried, me dis pas quand même que tu as fait la sieste pendant le match.
Je regardais, mais j'étais plein de fois déçu sur des actions où il y a un début d'action, mais après, sans un en avant.
C'est le 13e du top 14 contre le 2e de la Pro D2. Hein, on n'est pas non plus en finale de Coupe d'Europe.
Sans faire insulte à personne, j'ai plus vu un rugby de Pro D2. J'ai vu des meilleurs matchs en Pro D2 cette année. Alors, bien sûr, il y avait une énorme pression sur ces deux équipes. Bien sûr, il n'y a pas qu'un rugby de, comme tu dis, de super 15, super rugby, machin. Et, je suis de l'avis de Christophe Furios qui dit, il n'y a pas une dictature du beau rugby, du beau jeu et tout. Mais quand même, moi je me suis un peu, je suis resté sur ma faim, quoi, parce que, l'enjeu a pris le dessus évidemment sur le jeu, c'est évident. Mais il y a eu combien d'en avant, combien de déchets, combien de mauvais choix, les drops pas tentés à la fin. Mais il y avait, c'est tout ce qu'il faut pas faire en rugby, quoi. Donc moi je disais, s'ils regardent ça en Nouvelle-Zélande, s'ils le retransmettent, ils font une syncope les Néo-Zélandais. Là, quand ils regardent ça.
Oui, mais tu remets pas les choses dans le contexte. C'est pour ça que tu es trop passionné là. Il faut
l'ambiance,
la
pression, tout ça, bien sûr, ça les a tétanisés, certainement, évidemment.
Et puis les Néo-Zélandais.
Mais combien de fois devant ma télé j'ai dit mais en avant.
Ouais, mais les Néo-Zélandais ils jouent pas beaucoup la descente. Hein.
Oui,
on rappelle que c'est une différence.
Ça c'est sûr.
Non mais c'est exactement ce genre de match tu les verras jamais.
Bien sûr, bien sûr.
Là c'est notre Made in France.
Je m'attendais pas à un déchet technique de ce niveau quand même. Est-ce que vous pouvez l'entendre ça? Juste, est-ce que vous l'avez pas ressenti un moment?
Mais allez, Fit, on s'en fout. J'ai envie de te dire que
d'accord, c'est pas grave. Ils ont été vaillants sur cette rencontre. Mais non, mais il y avait 6 points, c'était cool.
Non, moi je me suis fait chier.
Mais moi, voilà. Alors je sors du match, à aucun moment je pensais à des erreurs techniques.
Voilà.
J'étais pris par l'émotion, tout voilà. Simplement. Et je me suis régalé.
Mais ça y est, on a le bilan. Wilfried, une tête de traître sur un corps de lâche et pas de cœur. Voilà. Lui, il veut que des relances de l'envie.
Mais on joue au flag. On fait des touches. Pisse froid par Marc Duzan du Middle qui va écrire.
Qu'est-ce
ça là, on s'en fout de ça.
Manu, on t'a pas entendu.
De la technique.
moi, je suis tout à fait d'accord avec Wilfried.
Ah bah oui.
Évidemment qu'on a vécu un
c'est
grand moment.
C'est la Ligue de Toulousain, tiens.
Tu veux vendre du papier, toi. Oui,
enfin. Non. Soyez honnête. On a vécu un grand moment. Ça a été un match d'intensité folle. Je le répète, c'était le match de l'année. Et quand on titre Biarritz orgasmique à une demi-dole, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, n'allez pas me dire que c'était un très grand match de rugby. Je vous cite toutes les fautes dont vient de parler de Wilfried. Parfois, des fautes contre le cours du jeu, parce qu'on a eu deux charnières qui ont été complètement absentes, qui n'ont jamais pesé sur le match, ou à chaque fois dans le mauvais sens. Comment les Bayonnais peuvent ne pas prendre le drop à 5 minutes de la fin? C'est complètement incroyable.
C'est à 2 minutes de la fin. 2 minutes de la fin.
Mais c'est la lucidité. C'est exactement le scénario du match qui fait qu'à un moment donné, mais tu manques cette sérénité.
Ça a été ça pendant tout le match. Il y a eu des fautes contre le cours du jeu pendant tout le match. Alors oui, on s'est éclaté. Oui, j'étais debout devant ma télé. Oui, j'ai hurlé.
Oui,
on était tenu
par ça.
Il y avait des émotions folles. Mais par contre, c'était pas un grand match de rugby. Pour arrêter de vouloir vendre.
Pas trop temps de jeu.
Mais c'est pas ce qu'on dit. On revendique à aucun moment que c'était un grand match de rugby. C'est un grand moment de rugby. C'est pas pareil. Donc on parle pas de match de rugby. On parle de moment de rugby et d'apprécier ce moment. Et moi, j'ai apprécié ce moment. Voilà. Après,
c'est le genre de match. On aura tous un souvenir. On aura tous en tête la pénalité loupée, le tir au but.
Ce n'est que ça.
On va en parler dans quelques jours.
On n'a pas parlé de la joie et de la détresse des uns et des autres.
J'ai juste pesté toutes les 5-10 minutes quoi devant des actions bouffées quoi par des en avant quoi
c'est bizarre hein, comme quoi hein.
Vous avez des visions des philosophies différentes messieurs. Paul, ce match s'est déroulé devant des tribunes pleines. Aguilera peut contenir je crois un peu plus de 9000 spectateurs. Au moment du coup d'envoi il ne restait pas beaucoup de sièges vides alors que la jauge avait été fixée à 5000 spectateurs seulement, un dépassement qui a provoqué, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques tensions entre les autorités et le club, et c'est pas terminé cette histoire.
Christophe, de vives tensions entre la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les dirigeants donc du Biarritz Olympique. C'est d'abord le sous-préfet de Bayonne qui a quitté l'enceinte d'Aguilera quand il a vu que la jauge n'était pas respectée. Dans la soirée, quelques heures plus tard, un communiqué de presse de la préfecture tombait, condamnant bien sûr le manquement aux règles sanitaires en vigueur. Alors la jauge dépassée, on parle de 8500 personnes réparties entre les tribunes Serge Blanco et Serge Camp. La vente d'alcool à l'intérieur du stade, des contrôles très aléatoires du pass sanitaire, l'envahissement du terrain au coup de sifflet final, bref, du grand n'importe quoi, hein, qui pourrait coûter très cher au bureau durant l'intersaison. On parle de sanctions sportives avec des matchs à huis clos ou encore des sanctions pénales, hein, un dossier ayant été transmis au procureur de la République. Le président du Biarritz Olympique, de son côté, a nié, bien sûr, tout en bloc, assurant que le logiciel du club avait bien émis 5000 billets, pas un de plus. Et alors, pour couronner le tout, Jean-Baptiste Aligé précisant que sur les 5000 places éditées, 5 avaient été données au sous-préfet sous le manteau et à sa demande. Un climat de tension extrême à l'heure où Biarritz va retrouver le top 14. Alors, pour conclure sur une note beaucoup plus légère, la réponse de Sean Sowerby, l'entraîneur du Biarritz Olympique, en conférence de presse d'après-match, sur sa surprise de voir les tribunes quasiment pleines. Je vous propose de l'écouter, ça va aller très vite.
Moi j'ai compté, il y avait à peu près 5 pays.
Compris messieurs, de détendre l'atmosphère et bien sûr d'éteindre l'incendie.
Ok, l'incendie n'est pas éteint. Est-ce que vous avez été choqués par ce manquement aux règles sanitaires, messieurs, Denis?
J'ai pas envie de choquer personne, mais moi ça m'a pas du tout gêné. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on accepte d'organiser un tel événement, il faut déjà anticiper les conséquences.
Voilà. Ouais, mais faut pas se plaindre après qu'en demi-finale, on n'ouvre pas plus les jauges au Stade de France.
Mais
ou
bon,
à Lille.
Quand on reproche que l'envahissement de la.
Non, mais l'envahissement, Denis, c'est pas l'envahissement, mais c'est que à un quart d'heure du coup d'envoi, la tribune Blanco, là où se trouve la tribune de presse, était pleine. Et en l'espace de 10 à 12 minutes, 4000 spectateurs sont rentrés quand même dans la tribune Serge Kampf, avec des buvettes qui étaient à l'intérieur. Enfin,
mais ils sont rentrés donc sans payer, puisqu'il y a 5000 billets seulement qui avaient été édités.
On se demande comment ils sont rentrés. En tout cas, ils étaient bien là, Christophe, parce que
on a bien vu.
Non, mais la jauge complète avec les pesages, c'est grosso modo 13 000 à 13 500 supporters. Et là, les deux tribunes étaient quasiment pleines. Donc, on peut dire qu'il y avait quasiment 9 000 personnes à Aguilera samedi au coup d'envoi de ce derby.
Il y a deux trucs qui sont assez ambivalents, parce que évidemment, j'étais heureux de voir les tribunes pleines et ça fait du bien de voir un stade comme ça. En revanche, et Wilfried a raison, on peut pas se plaindre d'un côté que les jauges, on ait envie de les augmenter, mais que quand il y a des jauges, on les respecte pas.
Ouais. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, le rugby montre le mauvais exemple. Comme ce qui s'est passé cet hiver pendant
la bulle sanitaire.
Les journalistes et les poignées de porte.
Voilà, les poignées de porte, la bulle sanitaire, les gaufres. La Biarritz et puis la réaction d'Aldigé. Bon, c'est quand même assez médiocre d'aller dire ah oui,
bon,
le sous-préfet, le sous-préfet sous le manteau qui a bénéficié de 5 places, et à aucun moment il justifie, s'il y a des choses à justifier sur le nombre de supporters présents. Bon, le rugby avait pas besoin de ça pour passer pour des truffes, mais disons que ça, c'est vraiment assez médiocre. Surtout que dans le même temps, on a vu qu'à Roland-Garros, il y avait eu limite des émeutes quand on avait demandé aux spectateurs de respecter le couvre-feu et de sortir.
Enfin, le lendemain,
C'était une dérogation officielle. C'était une décision du gouvernement. C'est pas simplement le président ou l'organisateur du tournoi qui dit, oh, bah, attends, ouvre les portes, on s'en fout. Là, bon, c'est quand même pas terrible, quoi.
J'espère qu'ils seront pas trop sanctionnés.
Oui, alors, qu'est-ce qui risque exactement? A priori, il y a pas de sanctions sportive, hein. il y aura pas de relégation ou de
Pas de relégation, Christophe, mais peut-être des matchs à huis clos pour attaquer le top 14 à la fin août ou au début du mois de septembre. On verra le calendrier évidemment, mais
sanctions financières peut-être aussi.
Sanctions financières aussi pour le BO et peut-être une fermeture administrative du club pendant quelques semaines en tout cas. C'est évoqué par la préfecture.
Bon, c'est pas grave.
Ah, mais ils auraient pu juste Christophe faire profil bas.
Ils délocaliseront à Villeneuve-d'Ascq, hein, c'est pas grave, hein, ils ont l'habitude.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, rencontre qui s'est donc achevé par une séance de tir au but. Là aussi, un rarissime en rugby. La dernière en championnat, je crois, remontait à 1995, un quart de finale entre Castres et Perpignan. À l'époque, le rugby n'était pas encore professionnel, c'est dire. D'ailleurs, Pierre, le règlement a longtemps fait que l'on a évité justement ces séances de tir au but. Hein.
Bah, longtemps, la règle, ça a été de rejouer le match, de rejouer les finales. Mais on a aussi d'autres règles. Hein. On a eu le plus grand nombre d'essais, le plus grand nombre de drops, de pénalités, de cartons jaunes, de cartons rouges. C'était comme ça, de manière décroissante. Hein. C'est-à-dire qu'on prenait en considération l'équipe qui avait marqué le plus d'essais, puis le plus de drops, puis le plus de pénalités, etc. Et puis dans les plus petites divisions, on a aussi longtemps eu la règle du plus jeune joueur sur la feuille de match. Et ça, c'était assez curieux parce qu'au coup de sifflet final, on voyait les cahiers de licence ouverts pour voir qui était le plus jeune sur la feuille de match. Et ça a parfois donné lieu à des scènes assez cocasses. Et puis dans l'histoire du championnat de France élite, on a eu plusieurs formules avec en 1934 ce 0-0 entre Bayonne et Toulon qui avait donné un report la semaine suivante. On avait eu un lourd de Toulon en 68 qui avait été décidé au nombre d'essais parce que c'était impossible de rejouer le match vu le contexte politique de mai 68. Et puis on avait eu aussi Béziers en 84 qui avait battu Agen au tir au but. C'était la dernière fois qu'on avait eu un match comme ça de ce genre-là qui se finissait en finale au tir au but.
Denis, c'est vrai que c'est on l'espère pas, quoi. On espère que ça se finit avant ce tir au but, la rencontre, mais en même temps, t'as pas le choix, quoi. Moi, je préfère, à la limite, qu'on tire au but que d'aller chercher dans des cartons jaunes ou cartons rouges dans l'année.
Ouais, tu vois, celui qui a pris le plus de pénalités, le plus jeune joueur.
Ça reste un geste technique, le tir au but.
Voilà, donc je préfère quand même cette finalité. Après, c'est vrai.
Regarde,
les
séances de tir au but en football, c'est rentré dans la norme et ça a donné lieu quand même à des grands moments de l'histoire du foot. Je vois pas pourquoi.
Ouais, mais la preuve, c'est là aussi. On a vu Stephen Armitage qui.
On s'en souviendra.
On s'en souviendra, le pauvre, comment il s'appelle?
Emeric Luc,
qui a été un des meilleurs de la saison du côté bayonnais.
Ah, c'est terrible. Le meilleur.
En plus, c'est un trois quarts, il ne peut pas la louper, mais la pression, la fatigue.
Ça se voit sur son visage quand il arrive. Il souffle plusieurs fois. Ouais. C'est terrible.
Il est chambré par le public d'Aguilera.
En tout cas, messieurs, Yannick Bru, le manager, l'encore manager de l'aviron bayonnais, hein, puisqu'il devrait se prononcer peut-être ce soir, peut-être demain, sur le fait qu'il prolonge son bail avec le club ciel et blanc, a déclaré que de terminer la saison de la sorte était vraiment cruel, sans un véritable vainqueur sur la pelouse. Voilà, ce sont
c'est un match nul, c'est vrai.
Ouais. Ça y est, il
on
revient
sur un match nul.
Mais il a raison, Wilfried, il a raison.
Mais sur la base de la fin du match, c'est match nul, tu descends pour des deux.
Ce genre de match, il faut un vainqueur parce que.
C'est vrai.
Ce que je disais à Christophe, c'est que techniquement, on est tous capables de réaliser le geste. Hein. Passer une pénalité 22 mètres face au poteau, sans mentir, je pense que j'y arrive pied gauche à froid. Mais le problème, c'est que là, c'est après 100 minutes avec une pression de malade. Non, mais je vous assure, c'est juste que là, on se rend pas compte.
On va peut-être organiser.
Non, mais vraiment, la pression est tellement dingue que
voilà.
Je pense que peut-être qu'il quitte pas le tee et peut-être qu'il finit plus en touche que d'entre les poteaux. Ouais. Là, c'est terrible. La pression doit être folle, quoi.
Non, mais Wilfried a raison, messieurs. Quand il part pour s'élancer pour sortir au but, le visage est complètement décomposé d'Emel Klug.
Ouais, et puis en plus, t'as la première phase avec 5 tireurs. Là, t'es en mort subite. Si tu rates, t'es éliminé. Et le héros heureux de cette séance des tirs au but se nomme donc Stephen Armitage, un vieux grognard du rugby européen. qui au moment décisif n'a pas tremblé, ce qui lui vaut le titre de frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Armitage, qui était déjà considéré comme une légende du RC Toulon, qui est donc devenu samedi, Pierrot, une légende du Biarritz Olympique, tout cela à plus de 35 ans.
Et oui, Stephen Armitage décisif sur une finale, c'est pas une première, hein, le triple champion d'Europe, champion de France avec Toulon, était l'un des incontournables du RCT version galactique. C'était un statut presque impensable en 2011 à sa signature sur la rade. On le rappelle, un joueur complet, physique, international, même à 5 reprises avec l'Angleterre. Mais pas vraiment bling bling. Son arrivée se fait alors dans l'ombre de celle de Botta, Bastaro, Guito et autres André Pretorius. Seulement sur le terrain, eh bien, il s'impose rapidement avec Toulon comme l'un des cadres de cette formation. Il forme même en 2013 l'une des plus belles troisième lignes du monde ou presque. La puissance de Juan Smith, le talent de Fernandez Lobé et l'explosivité sans égale de l'anglais. Ses qualités sautent aux yeux, meilleur gratteur européen, capable de porter le ballon comme un trois quarts. Son physique et sa vitesse font qu'on le confond régulièrement avec Mathieu Bastaro. Mais le 15 de la Rose se passe de ses services. Et oui, pas de sélection pour les joueurs évoluant à l'étranger. Tant mieux pour Toulon qui fait jouer tous les matchs aux Niçois d'adoption et lui permet de décrocher des distinctions individuelles. Meilleur étranger de la saison du middle, meilleur joueur européen, meilleure troisième ligne du championnat. La fin de l'aventure en revanche n'est pas si belle que ça à Toulon. Non retenu fin 2016, on parle d'un retour en Angleterre, d'un possible comeback sous les ordres d'Eddie Jones. Mais il s'engage finalement à Pau. Trois saisons plutôt moyennes et une blessure grave en demi-finale de Challenge Cup. Rupture du tendon d'Achille droit et voilà qu'on présume de la fin. En fin de contrat, gravement blessé à 32 ans, le troisième ligne semble tout simplement en bout de course. La preuve, il s'engage même dans le championnat américain, sorte de pré-retraite dorée. Seulement, l'anglais est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle pour des faits remontant à décembre 2019 et San Diego, le club où il s'est engagé, rompt son contrat. Le BO en profite pour engager l'ange déchu. Biarritz, terre d'accueil, fait de lui-même son capitaine et après ce match fou, essaie de monter en top 14. 8 ans après, le club basque pourrait désormais même en faire son héros.
Armitage, qui a donc pris ses responsabilités face au Perche, a priori il s'exerce régulièrement, hein, Polo. Est-ce que les avant Biarro et Bayonne se sont exercés justement à cette séance de tir au but avant le match dans la semaine qui a précédé ou pas du tout?
Ouais, bien sûr, si Christophe, des séances d'entraînement et à Bayonne et à Biarritz, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque Armitage a été tapé son tir au but, c'est lui qui a été demandé à Sean Sowerby de prendre la responsabilité sur le premier tir au but de la mort subite. Il ne voulait pas laisser la pression à un autre de ses coéquipiers et il a effectivement pris ses responsabilités. Mmh. On rappellera que Stephen Armitage a prolongé d'une saison son contrat avec le Biarritz Olympique.
Alors on aurait bien aimé, je sais pas toi Denis, mais voir aussi les deuxièmes lignes et les pilars s'essayer à la séance des tirs au but. Ça aurait été quelque chose.
Oui,
ça,
hein. Je suis pas sûr que ce soit. Quoi qu'on ne sait jamais.
Bah oui, John Hill,
c'était buteur.
Oui, il y a eu à l'époque, il y a eu Claude Spanghero qui était un énorme buteur. Il y a eu Jean-Pierre Bastia qui est un énorme buteur. Il y a eu des cas comme ça d'avant.
On en connaît aussi, Denis, qui faisait des bons pointus des premières lignes qui partaient en saucisse.
Et il y en a un qui s'appelait Zin Zambrook, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette vieille chambre de maître qui tentait des drops de 50 mètres. Mais bon,
il en Coupe du Monde contre l'Angleterre.
Oui, il en met en Coupe du Monde de 50 mètres.
50 et quelques, quoi. Et moi, ça m'aurait bien fait marrer parce qu'il y a souvent l'image quand les joueurs arrêtent leur carrière, même si c'est des piliers ou des talonneurs, des trous de deuxième ligne, on les fait taper. Et puis je me rappelle du coup de pied de Bakis Botta pour son dernier match, c'était une horreur absolue, un pointu dégueulasse. Et j'avoue que voir les gars qui ça défonce l'image d'un joueur, mais ça m'aurait fait rire de voir les gars qui chausent du 54 venir botter avec leurs palmes là, ça
avec les montantes et tout.
Ça m'aurait fait rigoler, mais il y a eu des bons buteurs devant. On aurait pu donner des choses intéressantes.
Après, il y a ceux qui pensent qu'ils sont des bons buteurs, comme Vincent Moscato, qui pensaient qu'ils savaient taper les drops, qu'ils savaient taper au but. Mais nul.
D'accord.
C'est un honneur, ça. Moi,
j'ai un pizzaiolo, parce qu'il y a quelqu'un pizza dans de l'ancien touche.
C'est l'étalonneur. Moi, j'ai un copain comme ça, école de rugby, junior et tout. L'étalonneur, il faisait des chandelles, mais au lieu de taper et de garder le ballon dans les mains, il lançait le ballon en l'air, il la reprenait de voler comme ça. En fait,
ah oui, d'accord.
C'était magnifique.
C'est l'inverse. Parfait. Alors, on va parler maintenant du futur des deux clubs. On va commencer, Eddy, par l'aviron bayonnais qui va évidemment avoir du mal à se remettre de ce coup du sort. Descendre en Pro D2 sur un coup de dé, c'est évidemment très dur à digérer. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour le club? Est-ce que le projet bayonnais est remis en cause? Tu parlais tout à l'heure de Yannick Bru qui se pose la question de savoir s'il va poursuivre avec l'aviron. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les autres conséquences pour l'aviron?
Pour Yannick Bru, Christophe, tu le précisais, c'est un échec, hein, tout simplement, pour le manager général qui était champion de France il y a deux saisons en battant en Brive, une première année en top 14, une deuxième année en top 14 qui n'est quand même pas si mauvaise, hein, avec 10 victoires quand même pour l'aviron bayonnais. Mais c'est vrai que le projet global, on rappelle, un nouveau stade, un centre de formation, 25 millions d'euros d'investis jusqu'en 2025. Et c'est vrai que là, c'est un véritable coup d'arrêt. Alors, on a vu le président Philippe Taïeb de l'aviron bayonnais venir en conférence de presse d'après match prendre ses responsabilités en disant qu'il garderait l'ensemble de l'effectif s'il le pouvait, mais vraisemblablement le niveau de l'aviron bayonnais en Pro D2 sera de l'ordre, le budget général, entre 13 et 15 millions d'euros. On parlait peut-être de 21 ou 22 millions d'euros si l'aviron bayonnais se maintenait. Donc forcément, c'est un coup d'arrêt pour cette équipe de
l'aviron. L'aviron qui sera un peu plus aidé financièrement d'ailleurs que le club qui accède au top 14, puisque je crois qu'il y a 600 000 euros qui sont versés au club qui descend en Pro D2, de manière à ce qu'il ne coule pas complètement, parce que évidemment, les sponsors vont disparaître en grande partie. Oui, Wilfried, tu voulais ajouter
un mot ? Christophe, tu te rappelles le président Taïeb, il y a un mois et moi, qui était dans l'Intégral Sport vendredi soir, ce qu'il nous avait dit sur l'avenir de Yannick Bruce, il descendait. Il disait, on pourrait pas, c'est pas quelqu'un qu'on pourrait peut-être garder s'il a rien à faire en Pro D2, il nous avait dit,
le président Taïeb. Je le sens pas bon, moi. Je sens que c'est pas bon.
On est plus sur un, alors Jeff Paturi a bossé aussi dessus, on est plus sur un départ de Yannick Bruce. C'est du 70-30, quoi.
Et puis, je vais te dire, il y a un fait qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est usant de jouer la descente chaque année.
Ah, puis la descente.
Non, mais, tu vois, non, mais
c'est un cycle.
Ça, la déception, je parle même pas de déception, c'est-à-dire de ramer toute l'année, quoi. C'est-à-dire que, c'est pour l'entraîneur, ça va être
très bon, on pourrait peut-être aussi penser que Yannick Bru ferait peut-être une année sabbatique, hein, parce que sa famille se plaît bien au Pays Basque, il y fait bon vivre, évidemment. Donc, on n'est pas à l'abri de voir Yannick peut-être interrompre pour une année sa carrière d'entraîneur.
Alors, le BO de son côté retrouve l'élite 7 ans après l'avoir quitté. Ça n'était pas vraiment prévu pour cette saison, Paul, d'autant que le BO et ses dirigeants sont en guerre avec la municipalité. D'ailleurs, alors ils ont invité, monsieur Eldigé avait invité le sous-préfet, mais en revanche, je crois qu'il n'y avait pas d'invitation pour madame le maire de Biarritz, hein, qui a récupéré les billets par le président d'aviron bayonnais. Ça, c'est pas joli, joli. Cette accession, justement, va permettre d'aplanir les différends et peut changer les choses, où on est toujours vers une délocalisation du Biarritz Olympique. On a parlé d'une délocalisation dans le Nord. Qu'est-ce qu'il en est et est-ce que ça peut changer des choses?
En tout cas, Christophe, pas à l'heure où l'on parle, hein, parce que la direction du Biarritz Olympique, n'ayant pas répondu à l'invitation de Maider Arostegui, la maire de Biarritz, pour peaufiner les préparatifs d'une réception officielle de l'équipe, évidemment pour célébrer la remontée en top 14. C'est un climat délétère entre les deux parties qui ne date pas d'hier, avec un bras de fer avec la famille Gave d'un côté, propriétaire du club, et les élus biarrots pour l'obtention, pour l'euro symbolique, on le rappelle, des terrains fonciers à bâtir tout autour d'Aguilera, la pierre angulaire du projet du fonds d'investissement Gavcal. Alors cette montée en top 14 peut-elle changer la donne à moyen terme? Peut-être, si l'on en juge par le nouveau sponsor principal du BO, Grinder, hein, qui devrait mettre sur la table près d'1 million d'euros pour permettre bien sûr au BO d'exister à l'étage supérieur. Mais Christophe, le chemin s'annonce tortueux. Je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Aldigé, le président du Biarritz Olympique.
Il y a 3 ans de ça, le club était en fédéral 1, de point de vue financier administratif. Donc c'est l'histoire d'un groupe, d'un club qui s'est reconstruit et qui a accédé déjà à ce super événement. Si on devait monter, on n'est absolument pas prêt en termes de structure. Vous voyez, aujourd'hui on vous reçoit dans ce qui est notre salle vidéo. On n'a pas le stade, on n'a pas de quoi s'entraîner. Je l'ai maintes fois répété. Après, en termes d'effectifs, j'ai aussi lu les grands analystes qui ont fait beaucoup de choses dans le rugby, qui ont expliqué que le Biarritz Olympique ne pouvait pas monter parce que sinon il ferait comme Agen, ou que l'effectif du Biarritz Olympique, s'il montait, n'aurait pas les moyens d'exister. Écoutez, déjà, il y a 3 ans, on n'existait pas en Pro D2, on a réussi à exister en Pro D2, il me semble. Donc on fera ce qu'il faut pour exister d'un point de vue effectif en top 14.
Alors, un scénario à la Agen, est-ce que vous y croyez? Est-ce que le BO sera armé pour résister au top 14, qui est quand même un championnat d'un autre niveau? On sait qu'il faut beaucoup d'argent. Denis, qu'est-ce que tu en dis?
C'est difficile de répondre à cette question. Il y a des bons joueurs à Biarritz, ça ne suffit pas. Il faut un gros effectif, on le sait, pour tenir toute une saison. Donc, on l'a vu avec Agen, à un moment donné, ils ont peiné parce qu'il y avait des blessés, que bon, il y a eu des tensions, mais l'effectif était pas assez pléthore et costaud. Donc, voilà, il va falloir recruter et je sais pas s'ils ont les moyens. Donc, c'est vrai que, attention danger, mais bon, on peut leur faire confiance, essayer de construire une équipe un peu à l'image de, peut-être pas Brive, parce que Brive, ils ont un budget un peu plus gros, mais des équipes qui s'accrochent tout au long de l'année, qui restent et qui se maintiennent.
Biarritz qui rejoint l'USAP en top 14, deux clubs mythiques du rugby français qui à eux deux comptent quand même 12 boucliers de Brennus. Ça fait du bien quand même de voir ces deux grands anciens retrouver l'élite du rugby français. Pour autant, le chemin les menant vers un nouveau titre de champion de France sera long. Le bouclier qui en revanche s'est rapproché ce week-end pour le Racing tombeur du Stade français et pour l'UBB qui s'est payé Clermont lors des matchs de barrage. La logique est respectée. Les équipes qui recevaient se sont imposées facilement pour le Racing de manière un peu plus compliquée pour l'UBB. On connaît donc désormais les affiches des demi-finales qui se dérouleront toutes les deux le week-end prochain au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Vendredi soir, le Stade Rejeté, messieurs, affrontera le Racing.
Pourquoi tu rigoles comme ça? Pourquoi il rigole comme ça?
Parce que je me sens tendu sur le coup. Et 24 heures plus tard, le derby de la Garonne entre Toulouse et Bordeaux. Un tout petit mot concernant le calendrier de ces matchs, sachant que la finale aura lieu le samedi d'après. Le vainqueur de la deuxième demi sera clairement défavorisé, hein, comptera un jour de récup de moins par rapport à ses adversaires. Voilà.
Bon, ouais, c'est... Ouais, ça en a l'habitude.
C'est Canal qui décide. Voilà. C'est le diffuseur. 100 millions par an, il décide.
Voilà, 100 millions, bah tu fermes ta bouche et tu acceptes comme ça. Un mot sur ces deux matchs, les affrontements qui sur le papier sont quand même à peu près équilibrés. Qui voyez-vous s'imposer, notamment le match entre La Rochelle et le Racing, qui pour moi semble quand même le plus équilibré. Denis,
je pense que Bordeaux a une carte à jouer.
Bordeaux qui a perdu trois fois face à Toulouse.
Oui, mais si on se réfère à la demi-finale, c'est le quart de finale ou demi-finale ils ont disputé à Toulouse où il y avait eu ils avaient été impactés par le Covid, ils avaient pas mal de blessés. Ils ont fait un drôle de match et Toulouse a gagné en fin de match sur un essai un peu de rapine avec une contre-attaque de Médard dans un côté fermé, si je me souviens bien de cette
action. C'est le chandel Nentamak récup de voilà, Colby et Médard qui donne.
C'était un match assez fermé et voilà, ils avaient pas toute leur force en présence. Moi Bordeaux, j'en fais pas mon favori mais je me dis que c'est un gros outsider de ce championnat.
Mm-hmm. Pierrot,
c'est tellement difficile, les équipes sont tellement proches. J'ai envie de donner un petit avantage à La Rochelle parce qu'ils ont pu faire un petit break de 15 jours, enfin de 10 jours on va dire, avant de se remettre vraiment sérieusement au travail, et que je pense que les avants de La Rochelle pourraient dominer les avants du Racing. J'ai aucune certitude, mais je pense que Aldridge, Skelton, Vito à 100%, on fait pas beaucoup mieux en Europe aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est assez ouvert, mais je donnerais un petit avantage à Toulouse quand même, parce que le vécu collectif, parce que ce groupe de Bordeaux découvre les phases finales pour la première fois et que c'est ce genre de match se gagne aussi avec une forme d'expérience, de vécu collectif. Mais honnêtement, si les deux résultats que je donne sont défavorables et que c'est l'inverse, je serais pas surpris non plus, c'est tellement serré. Et je sais pas si Wilfried sera d'accord avec moi, mais c'est hyper dense, quoi.
Moi, je pense que c'est du 50-50 entre le Racing et La Rochelle, notamment parce que le fait que le Racing a joué un barrage, mais n'a pas puisé sur ces trois derniers week-ends. Ils ont joué à Agen, ils ont reçu Brive, et ils ont joué les mains en du guidon à partir de la 60e.
Ouais, donc, ils ont le rythme, mais ils n'ont pas été entamés physiquement. Ouais,
ils ont plutôt une dynamique pour moi de phase finale, et que La Rochelle a perdu gros avec la blessure de Bourgarit, le talonneur. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment partagé. Toulouse-Bordeaux. Quand même, les Toulousains, il va falloir aller les chercher, hein, parce que ce qu'ils ont montré sur ces dernières semaines, et ils ont encore faim en plus, hein, c'est bougre.
Mais attention, donc, Bordeaux, devant c'est costaud.
Ouais, attention. Bien sûr. Ce sera le match le plus difficile face à Bordeaux pour Toulouse cette année. Ils ont gagné trois fois, et ce sera certainement le match le plus difficile. Mais sur le papier, quand même, voilà. Mais après, entre le papier et les phases finales, vous le savez très bien. Voilà, il y a une différence.
Exactement. Le grand favori de la compétition demeure donc le Stade Toulousain, sacré champion d'Europe il y a quelques semaines, qui rêve d'un doublé top 14 Champions Cup. Exploit que le Stade n'a réalisé qu'une seule fois dans sa glorieuse histoire. C'était en 1996. À l'époque, sévissait sur le terrain celui qui est devenu depuis le président du Stade, un certain Didier Lacroix, l'homme du renouveau du Stade, Wilfried. Hein.
Ouais, l'ancien troisième ligne, Didier Lacroix, qui a pris la suite de René Bouscatel en 2017. Hein. À ce moment-là, le Stade Toulousain cherche son second souffle. L'équipe première vient de terminer 12e du top 14. C'était un véritable choc ici à Toulouse. Il a fallu composer avec la fin d'une génération qui avait beaucoup gagné, hein, celle des Dussautoirs, Fritz Josion et la succession de l'imposant Guinoves et son palmarès XXL qui était parti depuis 2 ans. Ajoutez à cela un déficit de plusieurs millions d'euros, des affluences en baisse. Vous avez une vraie crise en Haute-Garonne. Mais Lacroix était à l'époque l'homme idoine. C'est son ami de toujours, l'ancien deuxième ligne Franck Bello, actuellement membre du conseil de surveillance du club, qui vous le dit.
C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans autour de l'économie du club, donc qui a dans ses relations des décideurs économiques, politiques. C'est quelqu'un qui est un enfant du club. Il y joue depuis minime. Il a connu toutes les strates, toutes les évolutions. Et je pense qu'à part sa famille, c'est la chose qu'il aime le plus au monde. Quand tu rajoutes à ça des qualités d'entrepreneur, une volonté terrible, tu regardes le joueur qu'il était, par exemple, ce qui est un trait de sa personnalité. Voilà, tu peux te dire qu'il y avait tous les ingrédients pour réussir et pour se sortir de la situation dans laquelle on était en 2017.
Ses parents, dirigeants et présents pour entourer l'école de rugby, lui qui a tout fait à Toulouse, joueur, 6 boucliers de Brennus et une Coupe d'Europe au passage, hein, entraîneur chez les jeunes, gérant de la régie publicitaire. C'est un homme qui va à 10 000. Franck Bello dit de lui, le suivre 3 jours, ça va, une semaine, c'est trop fatigant. À la fois bourreau de travail et épicurien, entre cigares et feria, l'homme Lacroix a rassemblé tout le monde à Toulouse. Un peu comme sur le terrain à l'époque, comme l'explique Eminem Tamak, son ancien coéquipier.
Sa qualité, ça a été de pouvoir, encore une fois, fédérer, d'être un homme communicant, d'être un homme rassembleur. Un homme qui montre l'exemple sur le terrain, malgré, je dirais, des atouts différents. C'était pas le plus grand, c'était pas le plus rapide, c'était pas le plus fort. Mais c'était un garçon qui était utile, qui a toujours été utile, qui a toujours été, je dirais, un chaînon essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, à la position qu'il occupe, il remplit encore plus ce rôle-là. Il cristallise. Moi, je le détermine comme quelqu'un de brillant. De manière, il a toujours été brillant. Je l'ai toujours connu à fond, jeune, jouer au rugby, être à fond et en même temps valider ses masters en se couchant à 5h du matin, en faisant 40 000 trucs, des petits boulots. C'est comme ça, Didier a toujours vécu sa vie à fond. Il le fait encore, je le répète, mais avec beaucoup de brio. Et ouais, un grand coup de chapeau.
Ouais, car si lui et Hugo Bola profitent aujourd'hui d'une génération en or, hein, faut le dire, ils ont su mettre tout le monde dans le même sens. Au-delà d'un recrutement brillant ces dernières années, les espoirs s'entraînent avec l'équipe première, ils ont un staff commun et comme ça, quand un jeune fait ses premiers pas à Toulouse avec les plus grands, bah, il n'est pas perdu, vous l'avez bien remarqué ces dernières années. Et puis, au moment où le navire Stade Toulousain tanguait, il est arrivé, Didier Lacroix, avec un message donné à tous les salariés, joueurs ou administratifs. C'est encore Franck Bello qui vous explique ça.
Il a refédéré toutes les composantes du club autour de lui, autour de ce que doit être ou peut être le Stade Toulousain dans sa ville. Le club doit être citoyen, l'ensemble des collaborateurs sportifs ou non sont au service du club, le club est le plus important que tout. Les gens passent, le club reste et on doit le servir.
Et ça marche en 4 ans, un titre de champion de France en 2019, un titre de champion d'Europe en 2021 après 2 demi-finales consécutives. Toulouse est encore en lice cette année pour faire un doublé, possède dans ses rangs des joueurs internationaux amenés à durer et attire de nouveau les entreprises. Lacroix a même pris du poids dans les instances, vous le savez, nouvel homme fort à la Ligue nationale de rugby où il a réussi le tour de force de guider, on va dire, René Bouscatel jusqu'à la présidence. Bref, avant de jouer l'UBB samedi en demi-finale, bah, Didier Lacroix apparaît comme l'homme fort du Stade Toulousain.
Voilà, un homme fort au Stade Toulousain, il y en a beaucoup des hommes forts dans ce club.
Il a quelques matchs avec lui. Ouais. On a fait des matchs ensemble. Moi, je finissais au Stade Toulousain.
C'est ce que j'allais dire. Il fait plus jeune quand même.
Mais j'ai fait des matchs avec lui. Écoute, je peux te montrer les images. Si t'en doutes, Franck Bello disait,
c'était pas le plus fort, mais c'est toujours celui qui jouait au final.
Non, mais il y a un mot qui le caractérise, c'est la passion. Et puis, il est un garçon honnête, passionné. Et moi, j'adore ce mec. Et c'est vrai, quand il était jeune, il avait déjà cette envie, cette passion et cette fougue. Il a toujours eu ça, cet enthousiasme-là. C'est quelqu'un qui cristallisait, le mot est, je crois que c'est Emile qui l'a dit, c'est ça, voilà, il cristallise.
Très bien, messieurs, donc les demi-finales à suivre le week-end prochain, on va se régaler, on l'espère évidemment, et avant la grande finale.
C'est sûr, j'espère, Christophe, j'espère, parce qu'on a des matchs de phase finale souvent cadenassés, souvent.
T'aimes pas le rugby, c'est ça ton problème?
Souvent on s'emmerde en phase finale.
Oui, allez, c'est cadenassé. Le super rugby, il sera content.
J'aimerais pour une fois une demi-finale à 35-29. Qu'on soit fou de jeu et que qu'on... Non mais c'est vrai, on en reparlera, mais c'est les dernières finales, les dernières demi-finales, c'était pas l'extase, mais bon, voilà.
Ah oui, c'est les matchs où l'enjeu prime sur le jeu. Merci Denis, Pierrot, Wilfried et Polo également, qui va donc quitter son maillot de l'aviron bayonnais, hein. Il va tourner sa veste, il va mettre celui du Biarritz Olympique pendant un an maintenant, au minimum un an.
Et comme ça on retrouvera Richard Pouljans le samedi soir aux alentours de 23h.
Oh mais ça on le retrouve toujours. Et surtout dans les bars, le bar Jean notamment. Allez, la bise des copains et salut, bonne demi-finale. Ciao, ciao.